Comme nous l'avons entendu dans les premières lectures avant l'Évangile, nous voyons le désir du Seigneur, c'est de sauver son peuple. Dans la première alliance, il fera tout pour cela, mais il faudra qu'il convainc le peuple de Dieu, le peuple de la première alliance, le peuple juif, d'accepter ce cheminement de libération, de sortir d'Égypte avec... Certes, c'était dur, mais en même temps, il y avait des consolations comme les oignons, tels qu'il nous est raconté. Il mangeait des oignons, il mangeait bien, semblerait-il. Toujours est-il qu'il faudra les convaincre, et ils auront du mal, même une fois partis, même une fois libérés, ils auront du mal à accepter ce chemin de libération qui a ses propres exigences, c'est-à-dire de suivre le Seigneur de façon confiante, on peut dire presque, on peut dire aveugle, hein, dans la confiance en Dieu, hein, sans savoir vraiment comment sera la terre promise, quand sera la terre promise. Mais ce chemin de libération, donc qui, avec toutes ses difficultés, a été proposé au peuple de la première alliance, il est proposé au peuple de la nouvelle alliance que nous sommes. Et nous aussi, de la même manière, nous pouvons avoir des difficultés à nous laisser faire, à entrer, à marcher à la suite du Seigneur, à entrer dans le chemin de libération que le Seigneur propose, à traverser le désert. La terre promise qui nous est promise, eh bien, nous ne l'avons pas encore vue, nous y croyons, nous ne l'avons pas encore vue. Nous pouvons être tentés de regretter le vieil homme, de regretter les coutumes anciennes, avec tout ce qu'il y avait de confort naturel, on va dire, avec toutes les petites consolations charnelles, simples de la vie quotidienne, et nous contenter de cela, de vivre simplement avec les petites choses de la vie quotidienne et nous contenter sans regarder plus loin. Mais le Seigneur ne veut pas cela pour nous, il veut vraiment nous libérer et nous faire vivre dès ici-bas des réalités d'en haut. C'est ce à quoi nous nous préparons pendant le carême. Nous nous préparons, nous traversons le désert, nous préparons une véritable libération pour vivre des réalités du ciel dont nous vivrons pour l'éternité, mais dès ici-bas, nous pourrons goûter cela. Et ce que le Seigneur nous demande de vivre, de faire pendant ce temps du carême, c'est un travail de conversion, de changement de mentalité, de changement de vie, de changement de priorité dans notre vie, où nous mettons vraiment la confiance dans le Seigneur comme premier. Nous mettons la parole de Dieu, la lecture des évangiles comme étant la source de référence première de notre vie et non pas d'autres choses même qui peuvent sembler bien en première apparence. Non, nous souhaitons vraiment nous mettre à la suite et nous laisser guider par le Seigneur pour nous libérer. Et donc, il nous faut vivre la conversion. Et le Seigneur, dans l'exemple dans l'évangile que nous avons entendu, nous montre qu'il est patient. Mais qu'en même temps, sa patience nous invite à l'urgence, à la conversion urgente, puisque dans l'épisode, dans la parabole du figuier, eh bien, on voit qu'il dit « rajoutons un an ». Dans un an, soit le Seigneur soit revenu, soit on sera mort, au choix. Enfin, c'est possible, on ne sait pas, on ne peut pas, personne ne sait ici. Enfin, s'il y en a un qui sait, il viendra me voir, mais personne ne sait. Et donc, c'est le dernier moment, la dernière année de la conversion qui nous est proposée. C'est maintenant. Et à la fois, il est patient, c'est-à-dire qu'on peut encore cheminer dans la conversion, et en même temps, c'est urgent, c'est maintenant qu'il nous faut le vivre. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de la même manière, nous dit le Seigneur avant la parabole donc, qui évoque cette patience de Dieu qui rajoute un an tous les ans. Jusqu'au jour où il n'y aura plus. Hein. Donc c'est peut-être la dernière fois, peut-être notre dernier carême, peut-être notre dernière Pâque. Hein. Et donc il nous faut vivre cette urgence et la prendre positivement en disant « Oui, Seigneur, tu es patient, mais je n'abuserai pas de ta patience, je vais me mettre en route de façon déterminée. » Et donc il y a urgence. Alors Jésus nous dit, bon vous l'avez compris, et puis c'est vrai que maintenant c'est bien acquis je pense dans la mentalité, dans nos mentalités, il n'y a pas de rapport entre les catastrophes que nous vivons autour de nous, en nous, dans nos propres vies, et notre propre péché personnel. Hein, c'est-à-dire que Jésus le dit clairement, hein, il y a une véritable distinction, ce qui fait qu'on ne peut pas considérer que l'on est récompensé ou que l'on est puni dès ici-bas. Par contre, ce qui est certain, c'est quand le Seigneur il dit « si vous ne vous confessez pas, vous périrez de la même manière », ça veut dire qu'au terme de notre vie, par contre, les choses seront mises dans la lumière. Notre conversion ou notre non-conversion sera mise dans la lumière. Et sans que le Seigneur intervienne automatiquement beaucoup, je pense que nous-mêmes, devant l'amour de Dieu, devant cet amour patient de Dieu, eh bien, nous nous jugerons nous-mêmes. Hein, et sévèrement. Toujours est-il que il n'y a pas de lien, même si parfois, il y a des expressions qu'on devrait bannir de nos langages, comme par exemple dire « qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tout ça ?» Ça, c'est pas chrétien, c'est païen. C'est autre chose, c'est de la superstition, c'est autre chose. Chrétiennement, nous savons que nous avons besoin de nous convertir. Chrétiennement, nous savons que nous sommes tirés par le bas. Chrétiennement, nous savons qu'il y a le péché originel dont vont être libérés nos frères et sœurs catéchumènes à Pâques, et nous avons été libérés pour la majorité d'entre eux par notre baptême, mais les conséquences de ce péché, les conséquences de notre péché personnel aussi, nous tirent vers le bas. Mais Dieu a la capacité de nous libérer. Hein? Dieu peut nous libérer réellement, il l'a fait par le baptême, il le refera. Dans la grâce des sacrements, il le fait dans la grâce pascale. Et donc pour cela, il nous faut nous décider à nous convertir. Alors, nous convertir, je l'ai dit, c'est vraiment mettre de l'ordre, mettre Dieu en premier, mettre le Seigneur, suivre le Seigneur, lui demander conseil, se tourner vers lui, avoir les évangiles comme référence et avancer ainsi en essayant de rentrer davantage dans la lumière. Et bannir ce que le peuple juif vivra beaucoup dans le désert, c'est-à-dire c'est ce râlage permanent, enfin je ne sais pas si il ne faut pas dire comme ça, cet mécontentement permanent, mais ça ne devrait pas être comme ça, mais ça devrait être mieux, et pourquoi ce n'est pas mieux, pourquoi ma vie n'est pas mieux, pourquoi je ne suis pas mieux, pourquoi... Non, bannir tout cela qui ne sert absolument rien, sinon à nous enfoncer, et rentrer vraiment dans un chemin de conversion où nous demandons au Seigneur de nous guider. Alors, la conversion, la vie par la prière, le jeûne et l'aumône. Mais je voudrais simplement soulever cinq tactiques du diable pour nous empêcher de faire carême, pour nous empêcher de nous convertir. Alors, ce n'est pas exhaustif, hein, vous en trouverez peut-être d'autres pour vous, dans vos vies, ou bien, dans la réflexion. La première tactique du diable pour nous empêcher de nous convertir, c'est la distraction. La distraction pendant le carême. Soit, alors deux types de distraction. La distraction, c'est-à-dire je ne fais pas carême, je vis le carême, je surfe sur le carême, et je surferai aussi sur Pâques et sur le reste, ce qui fait que j'aurai l'impression qu'il ne se passe jamais rien, que la vie spirituelle ne m'apporte rien. Ça, c'est la première distraction. C'est-à-dire je surfe dessus, je reste distrait, je préfère regarder, continuer à mes petites habitudes sur les réseaux sociaux, mes petites distractions habituelles. Voilà. Je ne fais pas carême. Deuxième distraction, c'est que j'ai pris tellement d'engagement dans le carême, donc c'est presque l'inverse, tellement que je suis dispersé dans mes efforts de carême. Et finalement, je m'y perds un peu. Et au final, je n'arrive pas à faire aucun effort que j'ai fait correctement. Donc ça, c'est les distractions. La deuxième tactique du diable, c'est de nous pousser au jugement. Saint Augustin dira, c'est la fierté qui change les anges en diables, c'est l'humilité qui change les hommes en anges. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler sur nous, et pas sur les autres. Pas dire si les autres changeaient, tout irait mieux, l'église serait beaucoup mieux, moi je serais beaucoup mieux, tout irait mieux partout. Non, c'est moi qui dois changer. Et donc, le jugement qui est vraiment l'accusateur, c'est le diable. Il nous accuse, mais il nous aide à accuser les autres. Et nous jouons le rôle du diable parfois, en accusant nos frères. Même si nous avons toutes les raisons de penser que nous avons raison. Parce que c'est souvent comme ça. Bien sûr, on n'accuse jamais sans avoir raison. Mais ça, c'est vraiment une tentation. Or, il nous faut travailler sur nous. Et quand on essaie de travailler simplement sur nous-mêmes, de travailler sur notre propre conversion, sur notre conversion de notre regard, mais notre conversion de vie, c'est beaucoup plus paisible, hein, beaucoup plus agréable. On a une vraie libération de ne pas avoir, de pas se sentir responsable de tout le monde. Il n'y a que Dieu qui peut juger les uns les autres. Troisième tactique du diable, la tentation de l'amélioration personnelle. Très rapidement, le carême peut devenir un but en soi, c'est-à-dire que de la même manière qu'on cherche à perdre du poids ou à faire, à retrouver une certaine santé ou à abandonner des habitudes gênantes, finalement on en reste là. On fait le carême, on fait des efforts. Oui, je vais changer ça, parce que c'est vrai que je me mets en colère facilement, donc je vais changer ça. Et c'est ça le but. Or, le carême, son but, c'est de nous accrocher plus à Dieu, de dépendre davantage de Dieu. On perd le but qui est la relation qu'on a à Dieu, qui a des conséquences sur notre vie quotidienne. Mais tous nos efforts de carême n'ont pas... C'est pas comme un effort de régime alimentaire où on cherche à perdre du poids pour être plus zen. Ça n'a rien à voir. C'est notre lien au Seigneur qui est en jeu. Et le démon peut nous essayer de nous dire « Oui, mais c'est bien, fais ça. » Et finalement, ne t'occupe pas du bon Dieu. Voilà. Quatrième tentation, tactique du diable, c'est la tentation de la division. Diabolos, c'est le nom du diable. C'est le diviseur. Il est très doué, ça marche très bien. Et ça marche particulièrement bien dans nos communautés chrétiennes. Donc on doit se féliciter que nous sommes très très doués dans ce domaine. Mais justement, cette tentation, nous devons la combattre avec détermination. Le pape François dira ceci, « D'où vient la division ? Du diable. La division est l'œuvre du diable. Fuyez les luttes internes. Ne nous occupons pas, au contraire, cherchons la paix et la communion. » Pas naïve, mais fraternelle, sur cette fraternité que nous donne Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même. C'est pas qu'on n'a pas de différence, de divergence de point de vue, mais c'est que nous sommes appelés à nous aimer. Et le diable veut que nous regardions les autres chrétiens comme des ennemis au lieu de les comprendre comme des frères, au lieu de les accueillir comme des frères. Donc, là aussi, le diable peut nous faire échouer notre carême simplement parce que nous nous divisons, nous sommes plus préoccupés par nos propres divisions que par autre chose. Et enfin, dernière tentation, la tentation la plus courante, quand on confesse, c'est le cas pour les prêtres, eh bien, on est souvent affronté à cette tentation-là. Souvent, beaucoup sont tentés par cette tentation. Je ne dis pas qu'ils y tombent, hein. Je ne dévoile pas les secrets de confession, mais on est tenté. C'est le découragement. Ça, c'est le truc. Le diable cherche à nous décourager, à faire croire qu'on n'y arrivera jamais, que ça change rien. Ça fait 52 ans que je fais carême et j'en suis toujours à ce stade. Donc cette année, ça ne va pas changer. Mais si. Et donc, le découragement est quelque chose qui est particulièrement un piège à vraiment dénoncer. Les tentations, les chagrins, les inquiétudes sont des marchandises offertes par l'ennemi. C'est Saint Padre Pio qui dit ça. Les tentations, les chagrins, les inquiétudes sont des marchandises offertes par l'ennemi. Le découragement nous est proposé par l'ennemi comme étant le bon chemin. Et donc, nous devons, là aussi, être vigilants à bien combattre cela. Donc voilà, les cinq tactiques du diable, la distraction, le jugement, l'amélioration personnelle comme un but en soi, la division et le découragement. Et puis je veux terminer par cette prière de saint Éphrem le Syrien du IVe siècle pour le carême. Seigneur et maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse, de découragement, de domination et de vain bavardage, mais fais-moi la grâce à moi, ton serviteur, de l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. Ô Seigneur, ô Roi, accorde-moi de voir mes fautes et de ne pas condamner mon frère, ô toi qui es béni dans les siècles. Amen. Nous prions particulièrement pour nos catéchumènes, donc Adrien, Erika, Vincent et Louis, un étudiant qui n'est pas là, d'accord ? et Isabelle qui est absente parce que pour des raisons de santé, mais qui est avec nous dans la prière.